Nous sommes le mardi 26 mars 2024 et vous écoutez l'émission spéciale SanDisk Professionnel de la 8e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle émission spéciale et on va s'intéresser aux bonnes pratiques de la sauvegarde avec SanDisk Professionnel. Après une première partie en saison 7 dédiée aux solutions de sauvegarde terrain, on s'intéresse aujourd'hui aux disques de travail et disques de sauvegarde pour l'archivage de vos précieux fichiers photos et vidéos. Pour nous accompagner dans cette émission, nous retrouvons Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo, qui est accompagné par la photographe Marie Ninin. Eh ben c'est parti, deuxième émission spéciale de cette saison 8. Benjamin, comment vas-tu ce matin ?
Écoute, très bien Arthur, je te remercie et je m'aperçois au moment d'enregistrer cette seconde partie que j'ai pas du tout mis en œuvre tout ce qu'on a dit dans la première émission. Lors de mon dernier voyage, donc je sens que je vais me faire taper sur les doigts.
Écoute, moi j'ai vraiment l'impression que cette émission c'était hier, mais pourtant ça fait déjà plusieurs mois qu'on l'a enregistré.
Mais c'est peut-être ça, c'était trop frais, du coup j'ai pas eu le temps de m'en imprégner, et voilà, mais je m'en mords les doigts.
Tout ça pour
je vous raconterai,
ça.
Je vous raconterai tout un peu plus, un peu de teasing. Ouais. Je suis désolé Sébastien, je vous appelle de te regarder.
Sébastien, on te retrouve de nouveau. Bonjour.
Merci
à toi, comment vas-tu ?
Très bien, très très bien. Bah écoute, toujours ravi de faire l'émission avec vous, et puis de partir sur un sujet qui me tient à cœur. Quelle bon, sauvegarde.
Magnifique. Et tu es venu accompagné en charmante compagnie aujourd'hui, puisqu'on reçoit pour la première fois à ces micros Marie Ninin. Bonjour Marie, comment vas-tu ?
Bonjour. Bah écoute, je suis ravie de vous rencontrer et de participer à cette émission. Merci Sébastien de m'avoir invité.
Alors la dernière fois, on avait traité des problématiques de sauvegarde terrain avec le choix de la carte mémoire, de la stratégie à adopter sur son boîtier, des lecteurs de carte mémoire et des notions de transfert. Aujourd'hui, on aborde la suite de ce processus de gestion, à savoir le stockage et la sauvegarde des fichiers numériques photo et vidéo, avec une réflexion qui va être très poussée sur la notion de disque de travail pour la post-production et évidemment les disques de sauvegarde pour l'archivage. Alors Sébastien, je te présente plus désormais évidemment, nos
voilà,
auditeurs
ça c'est fait.
Te connaissent
non,
par cœur.
Ça c'est fait.
Je rappelle quand même que tu es le gérant de la boutique Sélection Photo Vidéo à Paris, situé aux 4 rues Laborde, dans le 8e arrondissement. Par contre, si tu le veux bien, je vais présenter notre invitée, la photographe Marie Ninin. Alors Marie, tu es une photographe amateur passionnée et autodidacte. Tu aimes tous les styles photographiques et plus particulièrement les portraits, les paysages et la macro. Tu cherches à mélanger la spontanéité et l'esthétisme dans tes images pour créer une connexion entre tes sujets et les spectateurs. Tu as été exposé à plusieurs reprises et tu es suivi par près de 7500 personnes sur Instagram via tes trois comptes. Marie Ninin, tout attaché, le principal. Un compte consacré au noir et blanc, BNW _ Marie Ninin, tout attaché. Et un compte consacré à la macro, Marie Ninin tout attaché, _ d'État. Il va falloir un peu homogénéiser les noms de tout ça parce qu'on s'y perd un peu. Enfin, tu es aussi très proche du compte Les Compères, fondé par Frédéric Michaud et Baptiste Jaya, que nous avons déjà reçus tous les deux à ces micros et avec qui tu participes régulièrement à des ateliers photo pour partager tes connaissances et ta passion. Marie, est-ce qu'on a bien résumé les choses ?
C'est très bien résumé.
Parfait. On mettra des liens sur la page
de
l'émission sur notre site comme
machin.
Ça.
Voilà. Mais ça, c'est une question que je me pose. Pourquoi splitter les comptes, pas mettre toutes tes forces au même endroit ?
Et c'est une bonne question. En fait, au départ, je voyais que mes photos macro et noir et blanc ne marchaient pas. Du coup, je les ai mis ailleurs sur un autre compte, mais je n'ai pas le temps de m'occuper des trois. Du coup, je m'en occupe peu et je m'occupe surtout
du principal.
Du principal.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton matos ? Avec quoi tu travailles ?
Je travaille particulièrement avec Canon. J'ai un 5D Mark IV et un R7 que j'ai acheté récemment.
Réflexe et hybride ?
Ouais.
Tu fais de la photo, évidemment. Tu fais aussi un peu de vidéo ou pas ?
Très peu.
Très peu. Mm. Tu n'as pas encore franchi le cap. Est-ce que tu as une idée à peu près de combien de photos tu fais par an pour qu'on amorce un peu la réflexion sur ces problématiques de stockage?
Aux alentours de 5000.
Oui, quand même. Mm. OK. Et niveau post-production, tu travailles avec quel genre de machine?
Je travaille toujours avec Lightroom, déjà, ouais. Et en plus ou moins Photoshop.
Et la machine qui fait tourner tout ça, c'est quoi?
Un PC.
Super, parfait. Sébastien, une fois n'est pas coutume, vous n'êtes pas venu les mains vides avec SanDisk, puisque nous allons offrir la chance à nos auditeurs de peut-être remporter un SanDisk Extreme Pro portable SSD de 2 Tera, d'une valeur quand même de 239 euros.
Absolument.
Le SanDisk Extreme Pro portable SSD plébiscité par les photographes professionnels du monde entier est une solution de stockage robuste et fiable offrant les performances élevées de la technologie SSD. Il est presque d'ailleurs deux fois plus rapide que la génération précédente avec 2000 mots par seconde. En tout cas, écoutez bien tout ce que l'on va vous dire pendant cette émission et on reparle du concours à la fin. Alors, la dernière fois, Sébastien, nous nous sommes quittés dans la première partie de cette émission sur les notions de transfert de fichiers et donc de lecteur de carte mémoire, les disques portables SSD. Et pour rappel, nous avions évoqué l'écosystème SanDisk ProBlade, sur lequel nous allons revenir aussi un peu aujourd'hui.
D'accord.
Pour commencer notre réflexion, nous allons déjà essayer de partager nos habitudes de travail et peut-être même nos pires expériences en termes de sauvegarde. Je vous propose que l'on commence par écouter le témoignage de Raphaël Acquaviva, alias Raphaël underscore The underscore Parisienne, photographe amateur également, qui nous parle de son workflow. On l'écoute.
Ben, en tant qu'amateur, je vois mal pourquoi je devrais considérer mes sauvegardes comme étant moins importantes que celles d'un professionnel. Les photos que je fais sont des instants qui ne réapparaîtront peut-être jamais. Enfin, j'ai souvenir en fait d'une session photo sur le toit de l'Opéra Bastille où on avait un ciel orageux avec des trouées de lumière incroyables. La probabilité que je me retrouve encore un jour sur le toit de l'Opéra Bastille avec ce ciel-là, elle est quasi nulle. C'est perdre un disque dur, pour moi, c'est largement pire que de casser un objectif. Un objectif, ça se rachète, et on peut refaire des photos derrière. Un disque dur, c'est potentiellement perdre 3-50 photos qu'on ne pourra peut-être plus jamais refaire. Alors, très franchement, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience en termes de disque dur, parce que j'ai toujours acheté du bon matériel. C'est vraiment le point dans un ordinateur sur lequel je ne lésine pas. J'ai jamais acheté des disques durs ou des cartes SD de sous-marque ou de marque inconnue. En disque dur, j'ai quasiment toujours eu des Western Digital. Et en matière de photos, j'ai quasiment toujours eu du SanDisk. Moi, au niveau de mon workflow, en fait, c'est très très simple. Je ne garde absolument rien sur mon ordinateur à part ma bibliothèque Lightroom. C'est-à-dire que quand je sors d'une session photo, je plug ma carte SD dans mon ordinateur et j'exporte tous mes RAW vers deux disques durs. Un qui va me servir uniquement de backup et que je vais garder au cas où il se passe quelque chose avec l'autre. Et le deuxième qui va, lui, par contre, pointer vers Lightroom pour faire mes développements. Mais à aucun moment, mes fichiers RAW ne restent sur le disque dur de mon ordinateur par sécurité, parce que comme ça, si je me fais voler mon ordinateur, j'ai toujours mes photos ailleurs. Et si j'ai un des deux disques durs qui me lâche, eh bien, j'ai toujours le deuxième en backup pas très loin. Bon, étant amateur, j'ai pas forcément des très très gros besoins en matière de taille de stockage. Alors même si bon, le Sony Alpha 7R5 fait quand même des fichiers relativement lourds. Moi, je travaille avec des petits SSD de chez SanDisk, des SanDisk Extreme de 2 Tera. Ça me suffit en tout cas pour l'instant. Quand je commencerai à accumuler un peu plus d'euros, je verrai pour passer sur une solution un peu plus long terme, soit avec des disques, toujours deux disques durs externes, mais de plus grosse capacité, soit passer sur un système en RAID. J'essaie de faire le plus simple possible pour que ça reste relativement facile à gérer et intuitif, parce qu'encore une fois, bon, moi je suis amateur et je fais ça pour mon plaisir, donc je ne tiens pas à me rajouter trop de contraintes non plus dans mon workflow.
Bon, bah, il dit beaucoup de choses très intéressantes, bien, ouais, Raphaël.
Beau témoignage,
il explique très vachement bien les choses.
Mais ouais. C'est marrant qu'il répète plein de fois qu'il est amateur, parce que oui. La sauvegarde, enfin, on va en parler, c'est pas une question amateur pro finalement. Enfin, ah non, si, ouais, ça peut l'être dans d'autres dimensions, la dimension d'une agence, mais à titre individuel, amateur ou pro, peu importe. C'est important de sauvegarder ces images.
On est tous confrontés à la problématique.
Mmh. Bah, du moment que tu commences à appuyer sur le déclencheur, c'est que tu as envie de faire cette photo, tu n'as pas envie de la perdre.
Elle a une vraie valeur et il la décrit très bien. C'est au-delà de la valeur d'une optique, par exemple, qui peut tomber et que tu peux racheter.
Alors évidemment, il met le doigt sur plein de notions hein, qui sont ultra importantes, sur lesquelles on va naturellement revenir en détail au long de cette discussion. Mais il a de la chance, hein, parce que bon, alors il nous confie qu'il n'a jamais eu de mauvaises expériences avec son stockage, son workflow. Il n'a jamais perdu de données, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Est-ce que Marie, Sébastien ou même toi, Benjamin, vous avez déjà vécu une expérience traumatisante que vous avez envie de partager à ces micros?
Alors moi, pas personnellement, par contre, comme on a quand même pas mal de clients autour de nous, c'est plutôt des clients qui viennent désespérer.
Le bureau des pleurs.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et puis je me mets à leur place, ça peut être dramatique. Là, le plus récent, c'est un client qui est venu... en me disant, voilà, mon disque dur a cramé, est-ce que vous savez si je peux récupérer les données? Bon, évidemment, le disque dur était totalement illisible. Et à l'intérieur de ce disque dur, il y avait toutes les photos de son enfant de 0 à 5 ans. Mmh. Parce qu'il le dit bien, Raphaël, il n'a pas d'image dans son ordinateur portable. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose que tu trimbales, c'est aussi quelque chose que tu peux choquer. Alors maintenant, il y a des SSD dans les disques durs, dans les ordinateurs portables, mais il est vrai que quand il y avait des disques durs, un choc, et tu perdais l'intégralité de tes données et l'intégralité de ton système. Alors le système, bon, ok, tu le remets en marche, mais les données, elles sont perdues. Donc ça, je trouve que c'était un bon réflexe de la part de Raphaël de dire, mes images, elles sont dans du disque dur, un que j'utilise pour travailler et un autre que j'utilise pour sauvegarder.
Ça devrait être une règle de base. Enfin, moi, je l'applique à titre perso aussi, j'ai rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si mon portable là que j'ai sous les yeux, il tombe, il n'est plus utilisable, je ne peux plus le rallumer, c'est pas grave. Ça m'est égal, il n'y a rien dessus. Quoi. Enfin, ça m'est égal, ça m'embête, évidemment.
Tu vas perdre du temps à tout réinstaller, voilà, etc. Et
encore, fais marcher l'assurance. Voilà. Mais en termes de données, tout est ailleurs. Et c'est vrai que ça, c'est important.
Mais tu sais qu'il faut faire quand même pas mal de prosélytisme parce que ce n'est pas une règle générale du tout.
Non, c'est pour ça que je souligne.
Parce que beaucoup de gens sont persuadés qu'en prenant la carte mémoire, en la mettant dans le lecteur, en mettant leurs images dans le disque dur, ils ont fait une sauvegarde. Donc, c'est quand même ancré dans l'esprit des gens que la sauvegarde, c'est ce que j'ai mis dans mon disque dur. C'est
pas,
là où on va continuer.
On ne peut pas leur en vouloir, mais, non, mais complètement. Voilà, on va justement essayer de vulgariser un peu les choses. Mais voilà, c'est quoi les types de problèmes qui peuvent survenir finalement sur un disque dur? Donc, on a vu la panne, bête et méchante. Il y a quoi d'autre?
Bah, je peux parler d'un exemple perso, mais il y a le disque qui ne monte plus sur son bureau d'ordinateur tout bêtement. C'est-à-dire que j'utilise chez moi un dock externe dans lequel je glisse des disques donc SSD et HDD.
Ouais.
Mais t'es arrivé récemment de monter un vieux disque HDD, je dis vieux parce que ça fait des années que j'avais archivé des documents dessus. Tout l'historique d'un magazine qui s'appelait Le Monde de la Photo, qui est important,
c'est pas si vieux quand même.
Important pour moi. Mais en tout cas, ces dossiers-là étaient assez anciens. Je l'ai inséré dans le dock. Et il ne montait plus. Bon, ce qui est déjà arrivé par le passé, là où ça commençait à m'inquiéter, c'est que même en recourant à des logiciels de récupération de données comme Data Rescue, notamment, que j'utilise beaucoup, je n'arrivais à rien récupérer. Donc, j'ai commencé à m'adresser à d'autres services. Il y a même une boîte qui s'appelle Solim, une boîte de récupération de données qui est basée à Paris dans le 11e, qui est géniale, mais qui fait plus... qui gère plus des boîtes de prod, etc. Mais on en reparlera plus tard de la récupération de données. Donc, bref, j'ai découvert un soft Apple qui s'appelle Disk Drill Media Recovery.
Ah oui, j'ai entendu parler.
Extraordinaire. Ouais. Ouais. J'ai récupéré toutes les données.
Mais je crois qu'on en avait parlé déjà.
Extraordinaire. Le problème de ça, c'est que les données, elles réapparaissent, mais elles réapparaissent dans un désordre le plus total. Les fichiers sont renommés. Enfin, c'est une catastrophe. Mais j'ai réussi à récupérer les données et à reformater par la suite le disque.
Donc, qui est reparti finalement.
Le disque est reparti, mais pour ça, il a fallu que je récupère les données sur un autre disque. Donc du coup, ce disque ne montait toujours pas. J'ai dû le reformater complètement pour pouvoir le réutiliser. Je le réutilise aujourd'hui. Mais enfin, c'est un incident qui montre que finalement, la fiabilité de ces disques-là, même dans le temps, pourtant je l'entrepose avec soin, il n'y a pas eu de choc. J'ai acheté depuis des petites boîtes en plastique pour éviter que de la poussière vienne peut-être sur les têtes de lecture. C'est peut-être dû à ça, je ne sais pas. Mais du coup, depuis, je double systématiquement toutes mes sauvegardes.
Marie, tu n'as jamais eu de problème ?
Non, pas vraiment. Non. J'ai perdu une fois. En fait, au début, je mettais, mais comme tu disais, sur
l'ordi.
Sur l'ordi, et puis je faisais une première copie sur un disque dur, et je faisais une deuxième copie sur un autre disque dur régulièrement. Et c'était compliqué, parce qu'en fait, c'est cette double manipulation, et j'ai perdu une fois une trentaine de photos de la Défense que j'ai pu refaire. Donc rien de dramatique.
En termes de manipulation, moi je suis le champion du monde de l'erreur de suppression de fichiers.
Ah,
totalement de ma responsabilité, mais voilà, ça arrive. On veut faire du ménage, on va un peu trop vite. On supprime et puis c'est terminé. Il y a un autre aussi cas de figure de perte de données, problématique de sauvegarde, notamment quand on a ces données qui sont installées physiquement sur le disque dur de son ordinateur. Bah, c'est tous les nouveaux systèmes de hacking, de virus informatique qui peuvent... Des personnes malveillantes peuvent prendre en otage, entre guillemets, vos données, voire les détruire, ou voire vous demander des sommes astronomiques pour pouvoir les récupérer.
On a été attaqué chez Sélection Photo. On a été attaqué sur l'ordinateur de Sylvie, là où il y a la compta. Alors, il est rentré que dans cet ordinateur alors qu'on est en réseau. Et un matin, elle a ouvert son ordinateur, une page bleue avec marqué « Nous avons pris tous les fichiers qu'on a cryptés ». Donc, les fichiers, on les voyait bien. Mais ils étaient cryptés, donc on ne pouvait pas les ouvrir. On ne pouvait rien en faire. Et ils demandaient une rançon, effectivement. Bon, après, je t'avoue que demander une rançon à un Corse... Donc, effectivement, on n'a pas payé, mais on avait des sauvegardes. Et on a... Donc là, ce n'était pas des images. Mais tu vois, tu as une société avec toute ta compta et le mec te crypte ta compta. C'est hyper grave. Mm.
En tout cas, Raphaël, il le précise bien hein, dans son témoignage, ses photos, ses vidéos ont une valeur évidemment sentimentale, affective, que donc voilà, c'est des choses précieuses comme ça. Il faut mettre toutes les chances de son côté pour éviter les problèmes et éviter de les perdre. Raphaël, c'est un amateur. Pour un professionnel, il y a un level encore au-dessus de responsabilité. Je veux dire, c'est une catastrophe pour un pro s'il perd ses images.
Bah déjà, la réputation. C'est-à-dire que ça fait un manque de sérieux. C'est-à-dire que tu fais un reportage quelconque. On va prendre... moi, je n'en fais pas, mais moi, je fais que du corporate. Donc, je peux à la limite refaire les photos si je les perds. Je peux redemander aux gens de revenir. C'est ennuyeux. Ça ne fait pas très sérieux. Donc là, au niveau réputation, mais tu peux les refaire. Par contre, une photographe de mariage, c'est compliqué. Tu as perdu les images pour une raison quelconque, tu les as pas encore traitées. Enfin, c'est. En fait, en clair.
Un mariage, un photographe de mode qui est sur une prod à 50 000 euros. Excusez-moi, les gars, j'ai perdu les héros.
Oups, on refait le défilé.
Et le nombre de photographes qui se font piquer ces dernières années, du matériel
exactement.
Dans le coffre de leur voiture, dans les trains.
Le train, c'est une catastrophe, ouais, hein, le train.
Le nombre de cas de figure qu'il y a dans les trains. Exactement. Ouais, il faut être d'autant plus rigoureux sur les sauvegardes.
Je discutais avec un vidéaste l'autre fois qui m'expliquait quand il était en voyage et qu'il avait des prods et des rushs un petit peu sensibles, il faisait des copies et il se les envoyait par la poste en parallèle de les ramener dans ses bagages pour avoir une copie supplémentaire. Benjamin, tu évoquais les sociétés spécialisées dans les récupérations de données, parce que voilà, pour un pro, particulièrement sur un sujet sensible, bah, il est un peu obligé de tenter tout ce qu'il peut pour les récupérer, ses fichiers, quand il a un souci. Tu te rappelles un peu, tu avais fait faire des devis ?
Oui, j'avais fait faire des devis, enfin, du moins de manière, on va dire, non officielle, c'est-à-dire comme ça, de manière orale, avec le gérant notamment de Solim, hein, qui est une boîte vraiment qui mérite... D'être découverte. Mais bon, il m'expliquait gérer surtout des boîtes de prod, enfin travailler avec des boîtes de production. Hein. Ouais. Donc voilà, il avait des tarifs qui étaient très prohibitifs. Moi, ça m'aurait coûté par exemple plusieurs centaines d'euros de faire réparer mon disque. Mais quand je dis ça, peut-être que je l'aurais fait au bout d'un moment parce qu'il y avait une valeur sentimentale qui va dépasser tout le reste.
Bien sûr.
Mais clairement, c'est une boîte qui s'adresse plutôt à des professionnels. Quoi. Voilà.
Moi, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Hein. Je suis tombé assez facilement et bêtement sur la société Dafotech, qui est basée à Paris, qui propose des services de récupération de données sur des SSD, sur des HDD et sur des cartes mémoire. Alors, eux, ils identifient trois types de dommages,
de pannes,
de pannes qui existent, ce qu'ils appellent les pannes logiques, les pannes électroniques, et ce qu'ils appellent les cellules mémoire. Bon, bien compris la différence entre tout ça. Grosso modo, les prix, ça va de 150 à 550 euros, sans garantie, évidemment, au final, qu'ils vont pouvoir récupérer l'intégralité des données endommagées et surtout les remettre dans le bon ordre. Donc, c'est quand même des montants concevables pour un professionnel, très chers pour un amateur.
Et tu as même des sociétés qui le facturent au giga.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc là, ça peut monter vite parce que quand tu as 2 téras ou 4 téras à récupérer, la somme peut être astronomique. Alors, à la limite, si tu as une bonne méthode de sauvegarde, ben, ces sociétés-là, tu ne fais pas de demande à ces sociétés-là. C'est la meilleure solution pour ne pas avoir besoin d'eux.
Alors maintenant qu'on a bien compris l'importance de mettre en place ce qu'on va appeler un workflow pour sécuriser ces fichiers, on va s'intéresser aux disques en eux-mêmes et commencer par essayer de faire la distinction entre un disque de travail et un disque de sauvegarde. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe et vidéaste Olivier Wong nous expliquer cette différence et nous parler de son propre workflow.
Pour moi, la différence entre un disque de travail et un disque de sauvegarde, c'est surtout par rapport à la post-production et à l'archivage. Alors en fait, moi, quand je travaille, on va dire quand je suis en voyage, j'aime bien travailler avec des disques de travail. C'est généralement, ça va être des SSD, donc il va me permettre d'avoir une rapidité assez importante, notamment en termes de transfert, mais aussi pour la post-production, notamment lorsque je travaille sur des logiciels tels que Lightroom ou Premiere Pro. Généralement, en fait, quand je suis en voyage, j'ai deux disques de travail, un qui va me permettre du coup d'avoir tous mes fichiers ainsi que les fichiers projets pour pouvoir faire la post-production. Par exemple, mon catalogue Lightroom et mes fichiers projets de Premiere Pro, ils sont sur les disques de travail. Et après, je vais avoir un deuxième disque de sauvegarde temporaire en SSD également que je vais dupliquer. Ça, ce sera uniquement en fait pour la partie post-production en voyage. Et après, une fois que en fait je suis chez moi, je vais avoir des disques de sauvegarde. Donc là, ça va être plutôt des disques durs, donc qui vont être plus lents, mais qui vont offrir un meilleur rapport, on va dire prix stockage. Et là, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'une fois que j'ai terminé, on va dire la post-production sur mes disques de travail, je vais pouvoir archiver le tout, aussi bien les fichiers, on va dire bruts, que les fichiers projets sur mes disques de sauvegarde. Alors moi, en termes de capacité de stockage, il faut juste rappeler que je travaille aussi bien sur du contenu photo et vidéo, même si la plupart en fait de mes projets sont à destination des réseaux sociaux. C'est vrai que je tends à travailler avec des caméras qui permettent de shooter avec des résolutions assez élevées. Par exemple, mon Z8, il est sur du 45 millions de pixels en photo et sur de la 8K en vidéo, mais c'est vrai que je ne vais jamais pousser le bouchon très loin, c'est-à-dire que je ne vais jamais faire de la 8K en RAW par exemple, mais je vais rester quand même sur des tailles de fichiers assez importantes. Typiquement, par exemple, pour un projet où je suis sur une semaine de voyage, je reviens avec 200 à 300 gigas de contenu. Et donc là, pour le voyage, en termes de capacité de stockage, par exemple pour mes SSD, mes disques de travail, on va dire que j'ai deux disques de travail de 2 Tera. Et pour le coup, l'archivage, je suis sur deux disques durs de 16 Tera. Ça fait maintenant 3 ans que je fais de la photo et de la vidéo. Il me reste encore 8 Tera pour pouvoir travailler. Après, je verrai si je rachète d'autres disques durs. Mais jusqu'à maintenant, avec 16 Tera, je pense que je suis quand même pas mal loti, quoi.
Marie, toi, tu travailles donc avec deux disques durs. C'est quoi comme modèle? C'est quoi comme capacité? Et qui fait quoi?
Je travaille sur... En fait, je travaille sur un PC fixe, donc je n'ai pas d'ordinateur portable. Donc, je travaille que chez moi et je travaille directement sur un SanDisk 6 Tera, qui est mon disque et mon...
Bah, ton disque de travail, en fait.
Merci. Mon disque de travail. Et régulièrement, je fais une sauvegarde de ce qui est sur ce disque de travail sur un autre disque.
Qui est physiquement ailleurs?
Non, qui est sur mon bureau. Voilà, c'est une double sauvegarde, mais effectivement, je ne fais pas de triple sauvegarde.
On va en parler.
Mais voilà.
Est-ce que c'est pas risqué de mettre tous les œufs dans le même panier?
Et c'est ça.
Enfin, j'entends ne pas délocaliser un des
Mais c'est exactement ce que je ne fais pas et ce que je devrais faire.
Quitte à de temps à autre récupérer ce disque, le remettre à jour, le remettre... Bon, ça suppose un petit peu de gymnastique, une logistique, mais bon, en cas d'incendie, de vol ou autre.
Alors, pour bien s'y retrouver un peu hein, dans ce monde des disques externes, hein, puisque c'est ça dont il est question, on peut déjà commencer par distinguer deux types de technologies qui coexistent, qu'on va retrouver en gamme SanDisk professionnelle, qui ont un impact direct sur les performances, les capacités de stockage, les vitesses, les prix, donc mécaniquement, les usages et les profils d'utilisateurs à qui ils s'adressent. Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer la différence fondamentale qu'il y a entre la technologie HDD et la technologie SSD?
Alors, en fait, il y en a un qui est mécanique, c'est-à-dire qu'en fait, on a un plateau comme un...
Un disque.
Comme un disque. Donc, on a effectivement un disque ou plusieurs qui vont tourner, une aiguille qui va lire les informations. Donc, c'est mécanique. Ça ne résiste pas forcément au choc. Par contre, ça ne coûte pas cher à fabriquer. Il y a un peu d'électronique, mais il n'y a pas de semi-conducteur qu'on va retrouver, par contre, sur les SSD. C'est aussi ce qui fait la différence de prix. On peut monter sur les disques durs sur des capacités qui sont énormes, puisqu'on peut aller jusqu'à 22, 24 Tera. Il faut savoir que ce qu'on a dans les G-Drive de chez SanDisk, c'est une gamme. Donc, ils ont une gamme assez importante de disques durs. C'est ce qu'on appelle les Ultra Star. Donc, ce sont des disques qui... on a remplacé l'air qui était à l'intérieur, parce qu'en fait, dans un disque dur, il y a de l'air. Ils ont remplacé l'air par de l'hélium, ce qui fait qu'il y a moins de frottement. Le fait d'avoir moins de frottement, il y a moins d'usure. Donc, ce sont des produits qui durent et qui durent longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça, c'est pour la partie disque dur. Le SSD, c'est plus rapide. C'est la mémoire flash, donc on va directement sur les informations. Il faut des microprocesseurs à l'intérieur. Il faut des contrôleurs. Il faut effectivement beaucoup plus d'électronique qui coûte cher. On est un palier qui est 3000 mégaoctets par seconde sur ces produits-là, mais ce qui est énorme. Donc, on peut effectivement, ce que disait Olivier, aller très vite. Alors, Olivier fait beaucoup de vidéos, donc je ne veux pas dire que la photo, on a moins besoin de rapidité, mais pour la vidéo, c'est évident que quand tu as un fichier qui est lourd, il parlait de travailler en 8K, il ne faut pas que ça monte pendant des plombes pour aller sur son logiciel de montage, etc. Donc, et puis, effectivement...
Il manipule en plus en parallèle des fichiers de 45 millions de pixels.
Donc, tu vois,
c'est
voilà,
sûr que c'est...
Voilà, donc,
la rapidité, c'est important.
Alors, tout le monde me dit, oui, mais je ne suis pas pro, donc je n'ai pas besoin de rapidité. Alors, c'est du confort, hein, la rapidité. Hein. Ce n'est pas seulement la rapidité, c'est aussi du confort. Donc, on a sur des produits comme les SSD, des vitesses qui sont importantes, bien plus importantes qu'un disque dur qui est à peu près... entre 270 et 300 mégaoctets par seconde. Là, on est sur des 3000. Alors, 3000, c'est le maximum. Hein. Alors, 3000, c'est le maximum, sauf qu'après, quand on reparlera du RAID, etc., on peut augmenter ces vitesses-là.
Alors, grosse différence aussi entre les deux technologies, c'est le prix, le coût du stockage. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails dans ce que peut proposer SanDisk dans les deux cas. Si on s'arrête à la technologie donc HDD, hein, qui est souvent préconisée pour l'archivage et la sauvegarde sur le long terme, ce qui va différencier un disque par rapport à un autre, outre sa capacité de stockage, ça va être ses vitesses d'écriture et de lecture qui sont intimement liées à la vitesse de rotation de ces disques. La nécessité d'avoir une alimentation, parce que c'est,
oui,
comme c'est mécanique, c'est quand même assez gourmand. Ça tourne, ça chauffe, donc parfois même un système de ventilation, de refroidissement. Ça fait donc un peu de bruit. C'est beaucoup moins silencieux qu'un SSD. Et donc, grosso modo, et puis les connectiques, hein, naturellement, oui, est-ce qu'on est en USB-C, en Thunderbolt, les deux, etc. Au niveau des prix, grosso modo, j'ai regardé, on tourne entre 40 euros du teraoctet pour, on va dire, les modèles les plus entrées de gamme. Par exemple, un modèle SanDisk Professional G-Drive, de 12 Tera, ça vaut à peu près 500 €,
oui,
avec
ça.
Une connectique USB-C. Et les, plus, et les modèles les plus haut de gamme, donc un G-Drive Project qui fait 12 Tera, qui coûte quand même 790 €, ce qui revient à peu près à 66 € du Teraoctet, mais qui lui est full option, Thunderbolt 3, USB-C, et en plus, le fameux logement pour pouvoir accueillir les petits modules flash du système ProBlade dont on a parlé à l'émission précédente. Ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que le SSD change vraiment la donne sur ces trucs-là. C'est beaucoup plus cher, évidemment, au coût du teraoctet en termes de stockage, mais les prix des SSD ont chuté
en
10 ans.
Complètement.
Moi, je me rappelle les premiers modèles qui arrivaient. On s'achetait un 4 ou 5 gigas pour en faire son disque système d'ordinateur. On était le roi du monde. Aujourd'hui, un modèle entrée de gamme en SSD, alors je ne sais pas, moi, par exemple, un Extreme Pro.
Un Extreme Pro 1 Tera, c'est une centaine d'euros.
Voilà, c'est 100 € le Tera, à peu près, en entrée de gamme. USB-C.
Voilà, en USB-C. Un 2 Tera, c'est 160 €. Tu vois, c'est même pas. Quand tu montes en fait en capacité, tu n'es pas forcément en double, tu ne doubles pas forcément le prix.
Ouais.
Et tu as un super produit. Hein.
Ouais.
Puis ce qui est fantastique, c'est que les prix ont diminué, mais l'embonpoint aussi. C'est-à-dire que.
Mais c'est un truc de dingue.
C'est devenu un objet miniature.
Tu nous
qu'on
as mis dans la main
ça,
tout à l'heure les deux modèles phares en SSD portable de SanDisk. C'est affolant de miniaturisation. Si on monte en gamme, évidemment, sur ces produits-là, on va avoir d'autres types de connectiques. On va avoir l'apparition du Thunderbolt 3. Je pense par exemple au G-Drive Pro Studio, qui est un modèle qui propose un peu plus de 7 teraoctets à un peu plus de 1 000 €. Et puis le haut de gamme du haut de gamme chez SanDisk Professional. Alors bon, il a un nom particulièrement compliqué, je trouve, mais c'est le Pro G40 SSD. Alors là, c'est full option, 4 Tera, 800 €, ce qui revient à peu près à 200 € du Tera, donc deux fois plus cher que le HDD, mais surtout des vitesses de transfert absolument délirantes en Thunderbolt 3. Accrochez-vous bien, 3000 mots par seconde en lecture et 2500 mots par seconde en écriture. Ça, c'est la Rolls-Royce.
Exactement. Alors, c'est pour ça aussi que tu comprends qu'un garçon comme Olivier Wong, il a besoin de ce genre de choses. Alors, encore une fois, c'est un pro. Ça fait partie de sa prod. Hein. Mais tu as un autre produit qui est génial aussi et qui peut être aussi évoqué. C'est leur version studio chez SanDisk, qui est donc le G-Drive Pro Studio SSD. Donc, c'est 7,6 teraoctets. Ce n'est que du SSD. Donc les gens qui font de la vidéo en particulier travaillent là-dessus, et là tu as une rapidité incroyable.
Et c'est quoi la différence par rapport à l'autre modèle, parce que Olivier il parlait aussi de son utilisation en voyage, et c'est vrai qu'en voyage tu as besoin que ça aille vite aussi, parce que parfois tu peux avoir un accès restreint soit Wi-Fi, ou tu n'as pas envie de passer trop de temps d'ailleurs en post-prod à décharger tes cartes, etc. Donc là la vitesse a un réel intérêt. Pourquoi aller sur la studio? Est-ce que c'est
la forme? C'est la forme, tu vois, ça se met parfaitement dans un studio où tu as tes deux écrans ou trois
donc
écrans.
Donc, pour le voyage, quoi, c'est plus
fixe.
Pour.
C'est complètement fixe.
Ouais, hein. C'est pas
pour. D'ailleurs, c'est dans un même boîtier que les G-Drive. Hein. C'est le même boîtier qu'un G-Drive, mais à l'intérieur, ils ont mis des SSD. Et c'est effectivement plus dans un look de studio. C'est pour ça que c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont appelé, dans un look de studio. Mais ce que fait Olivier, pour revenir à lui, c'est exactement en fait la même chose que moi. C'est-à-dire que les fichiers RAW que je veux traiter sont dans des disques de travail. Et ça me permet de commencer à travailler soit avec une tablette dans la salle d'attente d'un aéroport, soit avec mon ordi portable. Mais j'utilise plus la tablette en fait en voyage, qui me permet de commencer à bosser sur mes images avec l'électromobile. Alors, je ne vais, vais pas faire de la couleur, hein, mais je vais faire du recadrage. Mmh. Je vais faire peut-être des changements de couleur, mais très légères, parce qu'après, toute la colorimétrie, je la fais chez moi avec l'écran
calibré,
évidemment.
Oui, mmh.
Mais ça te permet d'aller vite.
Donc, pour résumer, le SSD, outil idéal comme disque de travail et comme disque système, idéalement, il faut déjà en avoir deux. Mmh. Un pour le système de son ordinateur et un pour les données qui sont en cours de transit dans l'univers de la post-production, que ce soit photo et vidéo. Et la technologie HDD pour la sauvegarde et l'archivage sur le long terme. Ça, c'est la configuration idéale, sachant que voilà, ceux qui n'ont pas de problème de budget, ils peuvent faire du SSD pour tout.
Oui, tout à fait. Ouais.
c'est encore un autre débat. Alors, maintenant qu'on a bien compris la différence entre disque de travail et disque de sauvegarde, on va rentrer un peu plus dans le détail sur la manière de structurer son workflow avec un disque de travail. Et je vous propose d'écouter le témoignage du réalisateur Stéphane Couchou qui nous parle de son workflow vidéo en post-production. C'est assez impressionnant, on l'écoute.
Ouais, alors moi, je gère mon workflow, en fait, c'est un peu particulier parce que moi, j'aime bien travailler très rapidement et je ne fais pas tarder mes rushs. Donc, une fois que j'ai un projet, en fait, il faut vite qu'il soit abouti. Donc, en fin de compte, de ma carte SD ou de ma caméra, je vais directement transférer sur soit ma station de travail, en fait, au studio. Donc moi, je bosse sur pas des très, très grosses capacités parce que je suis pas un studio de cinéma non plus. Et voilà. Et puis, quand je shoot, je vais à l'essentiel. Mais par exemple, quand mes rushs ne dépassent pas 1 tera, je transfère tout sur des NVMe, en fait, en Black Series. Et j'ai 4 tera. J'ai 4 tera. Donc, j'en ai un qui est dédié pour l'OS et l'autre qui est dédié pour travailler directement dessus et pour faire du... j'appelle ça du micro-stockage, parce que moi, quand ça ne dépasse pas 10 Tera, c'est du micro-stockage, j'appelle ça. Et ensuite, je fais tout de suite un backup derrière sur mon SSD, justement, de chez SanDisk Pro, pour avoir mon premier backup. J'ai énormément de SSD à côté de chez SanDisk Pro. Donc, après, très franchement, peu importe, je peux avoir de l'Armor Lock, etc., pour des données un peu plus privées, quand c'est des gros clients, par exemple, quand on travaille pour des marques de luxe. Sur des montres de luxe, par exemple, on peut avoir des fichiers 3D, donc j'ai besoin d'avoir de la sécurité. Ça, c'est mon workflow que j'ai depuis tout le temps. Voilà. Et sur les backups, effectivement, plus j'ai de SSD à disposition et plus je peux faire le backup. Donc moi, je fais souvent backup 1, backup 2, et puis travailler dessus directement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu te mets en Thunderbolt 3 ou peu importe, tu peux travailler directement dessus. Donc, ce n'est pas non plus que du stockage. C'est aussi un outil qui nous permet d'éditer directement dessus. Voilà. Et ensuite, le reste, je le pose effectivement sur un NAS à côté. Alors, moi, pour stocker, pour voir ce que je garde ou non, en fait, c'est très, très bête. Moi, il y a un truc que je fais très régulièrement. Donc, je garde jamais après les fichiers originaux sur mon ordinateur. Donc, ça part dans la baie de brassage, ça part sur un NAS. Okay. Sauf que je ne vais pas mettre tous mes rushs. Je vais mettre vraiment les rushs les plus importants que peut-être potentiellement un client ou une marque va pouvoir me demander. Donc là, on va parler de slow motion, on va parler de grosses prises de vue en drone FPV, etc., par exemple. Et le montage final, parce que le montage final, moi, je l'exporte en 422 HQ, OK. Donc, c'est presque du lossless, j'ai envie de dire. Donc, ça veut dire que si j'ai besoin de le donner à un client, etc., ou de le rééditer derrière, je vais pouvoir. Bah, moi, depuis le début que j'ai commencé à faire de la vidéo, effectivement, j'ai vu pas mal de changements, déjà sur la taille, sur le poids, sur la résistance, sur le prix. Et je ne sais pas s'ils se rendent compte, les gens, mais avant, quand t'achetais un SSD, je ne sais plus à combien en était le giga, mais mine de rien, les prix ont considérablement baissé, tu vois. Moi, j'ai vu pas mal d'évolutions sur le prix, sur la taille, sur la rapidité. Là, on a quadruplé, même plus, on a multiplié par 4 ou 5 les vitesses d'écriture et de lecture. Les résistances, l'ergonomie, toutes ces choses-là, ça évolue à une vitesse. Et plus le temps y passe, et plus ça évolue chaque année. D'année en année, en fait, c'est exponentiel. Ça se multiplie à chaque fois. Et voilà, donc ouais, il y a une évolution qui est incroyable sur le stockage.
Je me rappelle la première fois que j'ai installé un SSD dans ma tour PC quand j'étais plus jeune. J'avais été, époustouflé de la vitesse d'allumage de l'ordinateur qui est passé de 3 minutes, 4 minutes à quelques secondes. C'était complètement incroyable. Marie, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en détail ton workflow côté disque de travail? Donc, ce qui se passe exactement entre la carte mémoire de ton appareil photo jusqu'à la fin de la post-production?
Alors déjà, je ne sors pas la carte mémoire de mon appareil photo. Je télécharge avec le câble USB, donc c'est un petit peu plus lent, mais c'est pas grave. Et ensuite, donc je copie tout dans Lightroom. En même temps, donc ça copie sur mon disque de travail. Et voilà, après je fais des suppressions directement dans Lightroom, les moches, les flous. Et puis je garde et je traite quelques-unes des photos et je garde tout dans Lightroom.
Ok.
Et ensuite je copie donc régulièrement une fois par mois peut-être à peu près,
ouais,
sur un autre disque dur.
Une fois que tu as terminé la post-production ou
non quand, que, par exemple, quand je décide.
D'accord, t'as pas un lot d'images, tu dis bon bah voilà, grosso modo, moi des images, j'y retourne à peu près, je sais pas, pendant un mois sur une session de prise de vue, et passé ce mois-là, j'estime que
oui, c'est, ça.
C'est terminé, on peut archiver.
Oui, c'est ça, à peu près.
Ok.
À ce moment-là, je supprime, je formate, une fois que j'ai tout sauvegardé, que j'ai fait attention que j'ai pas perdu des trucs, je formate ma carte SD.
Est-ce que tu appelles, toi, ton disque de travail, c'est...
C'est mon G-Drive Citera.
D'accord, donc ouais, ce n'est pas le même disque sur lequel est installé le système de ton ordinateur.
Non, je n'ai rien sur mon ordi.
Parfait.
Très bien, absolument. Tu avais l'air de tiquer, Sébastien, sur le fait de charger les images depuis l'appareil directement.
Bah, en fait, on parle de rapidité tout à l'heure.
Et oui.
C'est beaucoup plus long, parce qu'en fait, l'ordi considère l'appareil photo comme un périphérique et non pas comme un disque dur, même si tu peux mettre la fonction disque dur, enfin, lui donner l'impression que c'est un disque dur, c'est plus long que si tu le mettais sur... Parce que le temps de transfert, on en a parlé lorsqu'on a fait l'émission sur les cartes et sur les lecteurs de cartes. Le lecteur de cartes doit être aussi bon que la carte que tu lui mets dedans. C'est-à-dire que si tu as une carte qui est hyper rapide, tu la mets sur un lecteur de cartes que tu as payé 17 € sur un site qui commence par A, fatalement, t'es pas sûr d'avoir en fait le bon rendu. C'est-à-dire que tu achètes une super carte qui va vite, il y a marqué hein, lecture 280 mégas, et en fait elle le fait pas. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage d'utiliser l'appareil photo qui est pas forcément fait pour ça.
Bon, donc du coup, vis-à-vis de cette notion de disque de travail, deux choses à retenir. La première, c'est qu'il faut mieux privilégier la technologie SSD pour la rapidité d'accès et de réaction du... Alors, on ne va pas parler de disque, même si on dit disque SSD.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui.
Mais voilà, donc privilégier la technologie SSD et aussi, surtout, avoir un disque différent pour son système et pour ses fichiers en cours de transfert post-production. Ça, c'est la première sécurité qu'il faut absolument mettre en place.
Mais ce que disait Stéphane est intéressant parce qu'en fait, lui, il dit bien quand même qu'il travaille énormément sur du SSD. C'est-à-dire qu'il a des gros fichiers. Enfin,
je pense qu'il a les moyens de SSD.
Alors, il a les moyens, absolument.
Il a pas dit. Oui, contrairement à Olivier qui parlait des grosses capacités, lui, il mettait l'accent sur la multitude aussi.
Exactement, donc,
c'est intéressant, ça.
Ouais, c'est intéressant. Et après, il a une baie avec des disques durs Western Digital qui sont ce qu'ils appellent les Black, qui sont pareils avec de l'hélium à l'intérieur, des super disques durs. Donc effectivement, mais j'ai Rodi aussi qui bosse avec moi chez Sélection, qui fait pas mal de vidéos, enfin qui fait pratiquement que de la vidéo, un peu de photos, mais principalement de la vidéo, avec des grosses prods, il fait du mariage, mais avec de la multicam. Il est fatalement obligé d'être en SSD pour le montage.
Ah oui.
Il récupère en fait les cartes de tout le monde, il met ça sur différents SSD. Il utilise du Blade, justement, donc il donne en fait au caméraman, à chaque caméraman, leur blade, il transfère toutes les vidéos sur le blade, il a une baie où il range ses blades à l'intérieur, il peut mettre 4 blades à l'intérieur, donc ces fameux modules dont on a parlé à l'émission précédente, et ça lui permet de gagner mais un temps incroyable.
Mmh.
Et ça, effectivement, en vidéo, en photo, je ne vais pas dire qu'on en a moins besoin, mais en vidéo, tu ne peux pas faire l'impasse sur la SSD et la rapidité de ce système.
Alors évidemment, au cours de cette émission, on va donner beaucoup de conseils, conseils qui ne vont pas forcément être suivis, soit par envie, soit par moyen, parce que voilà, c'est des notions quand même qui sont relativement complexes, pas très intéressantes et difficilement palpables, sauf si un jour on a un pépin. Et comme tu l'as évoqué, il y a beaucoup de personnes qui confondent disque système et disque de travail.
C'est
vrai. Qui ont donc leurs données photos et vidéos sur leur disque système. Pour ces personnes-là, peut y avoir une première piste de solution de sécurité, c'est d'utiliser des logiciels spécialisés dans le backup des systèmes.
Bien
qui
sûr,
est donc ouais, l'ordinateur en lui-même, tous ces logiciels et tout ce qui est inscrit comme données sur ce disque-là. Apple, ça s'appelle Time Machine. Windows, ça s'appelle Windows Backup. Est-ce que tu sais un peu comment ça fonctionne tout ça?
Time Machine, oui. Windows, donc c'est assez récent, parce que je crois que c'est
très récent.
Je crois que c'était sur Windows 10, et maintenant sur Windows 11. C'est une copie, je pense que ils sont très inspirés de ce que faisait Apple. C'est quand même un truc génial parce que tu peux tout ton système, c'est-à-dire que c'est ton ordre, tu fais une copie intégrale de ton système.
Ouais.
Tu disais tout à l'heure, Benjamin, si mon ordinateur plante, bah, c'est pas grave, parce que si tu as fait effectivement ça,
tu rachètes. Si tu l'as fait, et alors, si tu es rigoureux, et si tu le fais régulièrement.
Et oui, donc c'est beaucoup ça. De si. En fait, c'est le fait d'être rigoureux qui pose un problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, tu sais, dans le flux.
C'est une hygiène de vie presque. Hein.
Ah
c'est,
ouais, je
suis d'accord. Il faut vraiment s'y astreindre, quoi. Ce qui n'est pas facile.
Parce que je fais le mec qui connaît, mais je suis pareil que tout le monde. Hein. C'est-à-dire que je ne fais pas forcément les bonnes choses au bon moment.
Bien sûr!
Parce que voilà, la routine, elle est que...
C'est une sécurité qui est même intéressante pour les professionnels, parce que voilà, on évoquait, on est beaucoup en mobilité. Ça peut arriver de péter son ordinateur, de se faire voler son ordinateur. Dans ce cas-là, un professionnel, il n'a pas vraiment d'autre choix que de courir en racheter un neuf. Et avec un système comme Time Machine ou Windows Backup, et ben, en 30 minutes, il se retrouve avec exactement le même ordinateur qu'il a perdu ou qui s'est fait voler. Il peut donc reprendre instantanément ses activités. Donc, c'est des trucs qui sont quand même assez intéressants, je trouve.
Après, tu as des logiciels. Tu as des logiciels plus ou moins payants. Moi, je suis plus sur les logiciels payants que sur les logiciels gratuits parce que j'ai l'impression que le fait de payer te donne quelque chose qui...
Chez Apple, rien n'est gratuit, même si ça en a l'air.
Je sais... C'est pas faux, c'est pas faux. Il y a un logiciel qui s'appelle IsUs qui peut te. En fait, tu programmes.
Tu l'écris comment, IsUs?
Alors, ça s'écrit, je mettrai un lien, on pourra peut-être mettre le lien. On mettra le lien, je donnerai les liens. Ça s'écrit EASE, plus loin US. Et tu peux automatiser. C'est-à-dire que tu peux dire, tous les X temps, tu prends ce qu'il y a dans ce disque dur et tu le mets sur un autre disque dur. Il peut, alors tu as plein de choix, hein. Il peut ne mettre que ce qui a bougé, ce qui a changé. Un point de fichier qui a changé, il va le copier. Un point de fichier qui n'a pas changé, il ne le copie pas. Donc tu as plein de choses. Alors, c'est
risqué
un peu...
comme condition. Ça, hein.
Oui, oui. Alors...
tout à fait. Après, il faut être à même, il faut savoir faire confiance. Moi, alors, je fais partie de ceux qui ne font pas confiance et qui reprennent tout de zéro.
Alors, ben, je suis
et
comme
qui
toi.
Qui écrase tout. Bon,
voilà, je suis comme toi.
Je pense un peu ancienne école quand je dis ça, mais j'assume.
Voilà, ouais. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à la limite, je me dis, c'est pas grave, ça va mettre plus de temps parce que en fait, c'est encore un gain de temps. C'est-à-dire qu'il va choisir les fichiers qui ont bougé, il va te copier que cela. Moi, je le fais la nuit. Je lui dis, ben voilà, tu prends ce disque-là, tu le mets sur l'autre disque. Ça mouline toute la nuit, le lendemain matin, c'est fait et on n'en parle plus.
Et après, tu mets 2 heures à vérifier qu'il a bien fait le boulot ?
Non, enfin, après, tu ne dors, oui, dors pas de la nuit en disant « pourvu que ça ne plante pas
oui. ». Ok, bon, on va maintenant s'intéresser à la partie la plus cruciale du sujet, c'est-à-dire la sauvegarde long terme ou l'archivage de ces précieux fichiers photos et vidéos. Il y a beaucoup de méthodes et de solutions qui sont possibles avec des niveaux de risque plus ou moins élevés. On vous propose d'écouter le témoignage de la photographe Caroline Galmich nous parler de son workflow d'archivage.
Donc, je suis photographe mariage et c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup de photos à traiter au quotidien pour mes mariages et à conserver. Donc, j'ai une routine. Donc, quand je rentre d'un mariage, que j'ai fait tout mon reportage photo, quand c'est un grand mariage, en fait, un véritable reportage sur la journée qui va des préparatifs jusqu'à la soirée, en fait. C'est là où je fais le plus de photos. Je rentre et en fait, la première chose que je fais, c'est que je télécharge, j'importe mes photos sur Lightroom tout de suite. Et je travaille sur un disque, un petit disque SanDisk SSD. Et une fois que j'ai fini mon travail de post-traitement de toutes mes photos. Donc, je conserve un répertoire avec le nom de mes mariés dans un répertoire pour ce mariage-là. Et je vais faire une copie de toutes ces données sur un disque dur, un G-Drive, un SanDisk G-Drive de 6 Tera que j'ai. Je sauvegarde toutes mes photos, toutes les RAW et la partie des RAW qui a été traitée et transformée en JPEG. Je les sauvegarde donc deux fois, deux endroits différents, sur deux disques durs externes, par sécurité, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, une fois, sur un disque dur, au tout début en fait. Quand j'étais photographe, au tout début, j'avais qu'une sauvegarde sur un disque dur. Et il m'est arrivé un petit souci sur ce disque dur. J'ai dû faire appel à un spécialiste en fait pour récupérer mes photos. Ça m'a coûté très très cher. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une toute petite perte dedans. Je n'ai pas récupéré l'intégralité, mais surtout, ça m'a coûté très très cher et je m'en suis voulu depuis, ça ne m'est plus jamais arrivé. Donc maintenant, je sauvegarde toujours deux fois mes photos.
Ah, est-ce que deux fois c'est suffisant, hein? Ça va être tout le sujet de cette partie-là. Y a la fameuse technique du 3-2-1, 3-2-1-0. Marie-Sébastien, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la philosophie de l'archivage en 3-2-1?
Alors, je vais prendre la parole. C'est trois sauvegardes, deux supports plus un cloud. Donc, alors, je pense qu'on va pouvoir en discuter de qu'est-ce qu'on met dans le cloud, etc., etc., parce que je pense que ça aussi, c'est un débat. Donc, trois copies. Donc, c'est un peu ce que tout le monde fait autour de nous avec les capsules que nous avons eues. Donc, un disque dur qui va être le disque de travail, plus une copie de ce disque de travail qui va devenir la sauvegarde. Donc ça, tout le monde, on va dire, le fait. Et après, c'est le troisième, c'est d'utiliser le cloud comme une troisième sauvegarde. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on sauvegarde dans le cloud? Est-ce qu'on sauvegarde 100% de ces 6 Tera dans le cloud? Donc là, il faut bien regarder combien coûte de stocker autant d'informations sur un cloud. Moi, je ne suis pas pour. Hein. Je vous dis, moi, je travaille en fait un peu différemment. J'ai mes RAW et mes JPEG, donc mes RAW et les JPEG traités, donc les RAW traités, dans un disque dur, j'ai la même chose sur un deuxième disque dur, et sur le cloud, je n'ai que les RAW traités qui vont me servir en fait quand je vais voir un client, de lui montrer les images ou de lui dire, tu vas sur tel lien et tu vas pouvoir voir toutes les images qui ont été faites pour ce reportage-là, ce qui va te permettre de les choisir. Je ne mets pas autre chose que ça dans le cloud.
Puis une donnée qu'il faut préciser dans tout ça, c'est que tout ce qui reste sur du physique, idéalement, il faudrait que ce soit à des emplacements différents. On l'a dit un petit peu en début d'émission. Ouais. Et ça, c'est une donnée qu'il faut essayer d'appliquer, qui n'est pas facile. On en parlait avec Marie au début. Je pense qu'à terme, un conseil qu'on peut donner en direct, c'est vraiment d'appliquer ça, quoi, pour être plus serein.
En fait, on se rend compte quand même qu'on est tous devenus parano avec le numérique. Hein.
Oui, mais
il y a de quoi.
À titre
perso, mais je ne mets rien sur le cloud. En tout cas, pas de photos sur le cloud du tout. Et pour des raisons écologiques aussi, parce que
évidemment,
c'est un vrai débat.
Ah, c'est un vrai débat, absolument.
Les ressources que nécessitent les serveurs dans des pays nordiques en général, les ressources en eau, la chaleur que ça dissipe, etc. Enfin, l'impact aussi des serveurs et de la surcharge des serveurs, il n'est pas négligeable.
Moi, je pense même que cette philosophie du 3-2-1, comme tu l'as décrite, Sébastien, on peut aller encore plus loin et l'appliquer uniquement à la sauvegarde et à l'archivage. C'est-à-dire deux copies sur deux disques identiques de ces données de sauvegarde, une qui reste proximité de son environnement de travail basique et une seconde, comme évoque Benjamin, dans un autre emplacement. Et à ça, on va venir ajouter en plus, en sauvegarde, tout ou partie de ce travail-là sur le cloud. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de solutions qui sont extrêmement développées pour les photographes et les vidéastes professionnels sur la sauvegarde dans le cloud. Moi, j'ai regardé un peu les prix sur des choses très, très grand public. C'est évidemment beaucoup, beaucoup plus cher,
c'est très cher.
Que sur du disque dur. C'est un système d'abonnement. Et puis, si on commence à mettre le doigt dans cet engrenage-là, bah, on est un peu bloqué, quoi. On est un peu bloqué à vie.
Tu as raison.
On est obligé de maintenir son abonnement si on veut conserver ses photos. Google, par exemple, avec son service Google One, propose un abonnement à 25€ par mois pour 5 Teraoctets. 5 Teraoctets, c'est quand même déjà assez confortable. Et par comparaison, on a Apple, iCloud Plus, qui propose 6 Teraoctets pour 30€ par mois.
Waouh.
Bon, j'imagine qu'il y en a plein d'autres.
Alors, il y en a plein d'autres, et puis il y en a plein d'autres qui ont disparu. Là, le 29 février dernier, le cloud de Sony qui s'appelait Play Memory, où tu pouvais stocker tes images, a disparu. Donc, bien entendu, ils ont prévenu tous les utilisateurs en disant, le 29 février, tout ce qui sera à l'intérieur disparaîtra. Tu as Barracuda Network qui a aussi disparu. Tu parlais de Google, ils avaient Stadia, qui était aussi un cloud de sauvegarde, qui a disparu aussi. Donc, c'est... Voilà, en fait, tu ne maîtrises pas, puisque tu passes par un tiers, et fatalement, tu ne maîtrises pas. Je suis plus d'avis, ce qu'on disait tout à l'heure avec Benjamin, d'avoir un deuxième disque dur et de le mettre en sécurité ailleurs. C'est ce que je fais quand je pars en vacances. Mon disque dur part directement de chez moi à la boutique dans un coffre. Voilà, c'est encore une fois, c'est un peu de la paranoïa, mais pourquoi pas.
Et moi, je vais même plus loin que ça. C'est à ça j'ajoute quand je pars de chez moi. Et même aujourd'hui, on est en studio, j'ai toujours sur moi des disques durs, donc miniatures, on va dire, de forte capacité, des 4 terrains en général, avec tous mes JPEG. De
oui, au moins ça.
Sur moi.
Voilà, au moins
les JPEG. Toujours, toujours sur moi. Et quand je pars en voyage, c'est pareil. Même un week-end, truc, je les ai toujours sur moi. En plus de ces données en dur sur des disques dans des endroits plus ou moins sûrs.
Et puis il y a aussi un, alors là je parle de ma propre expérience qui est pitoyable, il y a aussi le côté obsolescence technologique, je m'explique, les choses évoluent quand même assez rapidement dans l'univers de l'informatique, dans l'univers des cartes mémoire, du stockage, du machin, et moi j'ai eu la flemme de faire les choses au moment où il fallait être faites, où il fallait qu'elles soient faites, et je sais que quelque part dans mes tiroirs, j'ai 2-3 disques durs mécaniques d'il y a 15-20 ans où je me suis dit, ouais, je ferai ça l'année prochaine, c'est pas un problème.
À la retraite.
C'est passé. L'interface, évidemment, je suis obligé d'acheter quelque chose tout à fait douteux sur Amazon pour essayer potentiellement de les faire revivre. Un vieil appareil photo, on se dit non, mais ça, je vais m'en occuper. Les compact flash, non, mais je vais m'en occuper. Les mémoristiques, je vais m'en occuper.
Ouais. Les smart media.
Et en fait, on se retrouve avec plein de supports totalement obsolètes. On ne sait pas s'ils vont redémarrer un jour. On ne sait pas si on va pouvoir les faire redémarrer un jour. Et du coup, bah, on a son patrimoine et ses archives qui s'éparpillent et qui finalement disparaissent.
Oui, il faut penser d'ailleurs à vérifier ces disques durs, à les faire tourner pour voir s'ils marchent encore. Ne serait-ce que les faire tourner.
C'est quoi la fréquence idéale un truc comme ça. C'est terrible en plus comme truc. C'est le moment où tu te rends compte que ça ne marche plus. C'est l'angoisse absolue.
Ah ben l'angoisse absolue. Ouais,
je suis pas sûr qu'il y en ait, mais en revanche, il existe, sans passer par des boutiques commençant par A, il existe des enseignes, par exemple à Paris, de câblerie qui permettent d'obtenir des connectiques pour récupérer du Firewire vers d'autres connectiques.
Oui.
Et effectivement, réutiliser, parce que c'est tout à fait important ce que tu disais, Arthur, des disques qui sont désormais obsolètes, les FireWire 400 ou 800.
C'est ça, par exemple, sur Mac. Les disques durs IVE remplacés par les SATA, où effectivement, il n'y a plus la connectique.
J'ai même des photos sur des vieux jazz.
Ah oui, ça aussi. Ouais, non, j'imagine.
J'ai jamais transféré mes premières photos numériques. J'étais tout, même pas ado à l'époque. Je sais qu'elles sont sur ces disques-là. C'est comme si c'était perdu, quoi.
Ouais, c'est un peu terrible. C'est comme le passage d'une carte mémoire à une autre, d'une génération des compact flash à la SD, etc., etc. Il faut penser à faire l'immigration, c'est vrai.
Et donc, excusez-moi, mais justement, comme j'étais en train de récupérer des RAW que je voudrais garder sur un disque que je vais mettre ailleurs, donc je fais du tri et je découvre des photos, enfin, je retrouve des photos que j'ai faites en haut de l'Observatoire de la Sorbonne il y a 7 ans. Avec un Canon 70D à main levée sur l'étroite terrasse où on n'a plus le droit d'aller maintenant. Nuit noire, donc j'ai ouvert à 5000 ISO. Inutile de dire que les photos étaient complètement inexploitables. Mais alors, vraiment inexploitables. Ben là, j'ai regardé et avec Lightroom et ce fameux débruitage, ben j'ai réussi à en tirer quelque chose.
Mais absolument, et les dernières versions logiciels, des ISO...
Génial.
Permet de revisiter ces photos et de les restaurer d'une manière absolument spectaculaire. C'est tout à fait vrai. Par exemple, avec des photos de bridge à capteur 1 pouce, j'ai été extrêmement surpris de ce qu'on peut sortir.
D'accord.
Qu'on dédie une version de DxO.
C'est passionnant.
Ouais.
Et un clin d'œil à Adrien Branco, notre confrère, qui a écrit un article là-dessus dans Réponse Photo et qui parvient à extraire des fichiers tout à fait étonnants avec des capteurs... qui sont plutôt petits, quoi.
Alors, je récapitule. L'idéal, 2 disques de technologie SSD, 1 pour le système de son ordinateur, 1 second pour ses documents en transit en termes de post-production, 2 disques durs identiques en technologie HDD pour la sauvegarde et l'archivage long terme. On a moins besoin de vitesse. On est moins tributaire, on fait des économies aussi à choisir cette technologie-là, ces deux disques durs ne doivent pas être physiquement au même endroit. Ça, c'est déjà un bon workflow d'être comme ça, avec évidemment vérification que ça tourne régulièrement et actualisation des contenus de ces deux disques durs de sauvegarde assez régulière. On peut aller encore plus loin. Et là, on va se tourner vers des solutions de sauvegarde qu'on va retrouver toujours chez SanDisk Professionnel, mais là, ce qu'on appelle en RAID. Est-ce que tu peux nous parler du système et des produits RAID, Sébastien ?
Alors, le système, en fait, c'est une stratégie. Je dirais, c'est une stratégie de comment je vais sauvegarder mes données. Donc, il existe plusieurs. Je vais vous en citer cinq, qui est le RAID 0, le RAID 1, le RAID 5, le RAID 6 et le RAID 10. On va commencer par le RAID 0. Le RAID 0, ça serait d'utiliser deux disques durs hein, qui sont en 270 mégaoctets par seconde, de prendre ton image, la découper. J'essaye de faire des analogies pour que ça soit assez simple parce que c'est un peu compliqué. Enfin, je trouve pour moi assez compliqué qui suis un simple photographe et pas un informaticien. Donc, tu prends ton image, tu les découpes en petits morceaux et tu la balances dans les deux disques durs et tu ne sais pas où elles vont, mais ça a été vite. Le seul souci, c'est un des disques durs plante, tu ne retrouveras pas tes images.
Ouais. Donc, ce n'est pas un système de sauvegarde particulier. C'est juste plus de stockage, plus de vitesse. Quoi.
Voilà, tu utilises deux disques pour avoir plus de vitesse. Avec le risque, effectivement, si un des disques durs plante, bah, tu as perdu l'intégralité de ce qu'il y a dedans. Donc, qui utilise ça en général, ce sont les gens qui ont besoin d'avoir de la rapidité sur leur disque.
Ouais, donc, le RAID 0 ne s'applique pas pour les photographes et les vidéastes.
Non. Donc, après, tu as le RAID 1. Qui en fait le RAID, qui est ce que j'avais appelé protecteur, c'est un peu ce qu'on a dit. Donc chez SanDisk, ils ont un boîtier, dedans tu as deux disques durs, et automatiquement, quand tu fais sauvegarder, ça sauvegarde sur le disque A et sur le disque B en même temps.
Donc l'intérêt là, c'est que si jamais on a l'un des deux disques qui plante pour une raison X ou Y, on a le deuxième.
Tu le sors, et on t'en mets à neuf, et tu fais. Et c'est reparti.
Ok, donc tout ça est très théorique, hein, évidemment. Concrètement, en termes de produits, ça se matérialise comment cette technologie-là ?
Ben pour le RAID 1, qui est donc ce que j'appelle le protecteur, c'est le disque dur qu'ils appellent chez SanDisk le Mirror, où en fait tu as un boîtier qui est un peu plus gros, tout simplement parce qu'il y a deux disques durs, un au-dessus de l'autre, et que tu peux retirer selon les besoins ou selon les risques qu'il y a pu avoir sur un des deux disques.
12 Tera, 900 euros.
C'est ça.
Mais dans les faits, c'est 6 Tera exploitables. Exactement. Mécaniquement.
C'est ça.
OK. Mais tout ça, voilà, c'est du stockage physique sur disque. Ces solutions ne sont pas connectées. Si on imagine que cette technologie est connectée en ligne, c'est-à-dire accessible depuis n'importe où, on se retrouve dans l'univers des NAS. Mmh. C'est bien ça.
Mmh. Alors, le NAS, ça peut être effectivement pour les sociétés qui je dirais les agences de créa, qui vont mettre toutes les vidéos, toutes les photos à un seul et unique endroit. Et chaque collaborateur peut se brancher et récupérer les documents qu'ils veulent, des images pour faire des plaquettes papier, le vidéaste qui va aller chercher la vidéo et tout le reste pour faire ses créations.
Et ça va même plus loin que ça, puisque certaines sociétés, je crois, Blackmagic Design, proposent un système de travail collaboratif connecté, donc mécaniquement associé à un NAS quelque part chez Blackmagic Design, tellement rapide qu'il est possible à plusieurs collaborateurs en même temps de travailler sur un fichier Resolve au même moment.
Ouais,
ça, c'est
vrai.
Complètement dingue en termes de productivité. Ok, bon, pour terminer cette discussion, je vous propose qu'on essaye de se projeter un peu dans le futur. Et pour ça, on va écouter le témoignage de Kalima Toubal, qui est Global Market Strategy Director Flash Business chez Western Digital. Elle nous parle de l'avenir du stockage et des nouveaux besoins des utilisateurs.
Alors, chez Western Digital et notamment avec la marque SanDisk Professionnel et la marque SanDisk, on envisage le stockage et le futur du stockage en fonction des besoins des utilisateurs. Aujourd'hui, la production de contenu de haute qualité a atteint des sommets. Donc, il y a environ plus de 200 millions de créateurs de contenu dans le monde. Et donc, nous, chez Western Digital, on a besoin de satisfaire les utilisateurs parce qu'ils auront des besoins de stockage grandissants car ils ont tous des exigences assez variées. Donc, on a des amateurs, on a des photographes, des cinéastes, des sociétés de production. Et en fait, l'ensemble de ces utilisateurs cherchent des dispositifs de stockage de qualité professionnelle, mais qui vont répondre aussi à des besoins de contenu de plus en plus lourd, de contenu de plus en plus haute résolution. Et puis, on essaye aussi de ne pas entraver leur créativité. Donc, il faut de la capacité, parce que les contenus sont de plus en plus importants. Il faut de la performance, il faut qu'on soit aussi polyvalent, flexible dans la manière dont on propose les solutions. Les solutions doivent être interconnectées, interchangeables, parce que en fait, il faut pouvoir justement assurer de la capture à l'édition, l'archivage, le transfert et la sauvegarde des données. Et d'autre part, en fait, dans le futur, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec aussi les périphériques hosts qui sont de plus en plus avancés au niveau performance, on a besoin de répondre à cette demande de performance et de capacité. Donc, nous, on va vraiment essayer d'adresser toutes ces communautés qui ont besoin de solutions avec des vitesses de lecture, écriture, transfert très, très rapides, mais avec également la capacité qui permet justement de stocker de plus en plus large. Et ça s'adresse à toutes les communautés. Donc c'est en cela qu'on essaye de fournir, grâce à nos technologies et puis aussi à l'expérience qu'on a depuis 1971, hein, sur le disque dur, sur le SMR, sur les technologies avancées du disque dur et sur la technologie flash, on essaie justement de combiner nos efforts pour répondre à ces exigences.
Je n'avais pas conscience, moi, que Western Digital, ça remontait à 1971. C'est assez impressionnant. Sébastien, bon, on a ces deux technologies-là qui cohabitent et qui avancent en parallèle, le HDD et le SSD. On voit naturellement que si on met de côté le prix, le SSD est plus que séduisant,
bien sûr,
pour la majorité des utilisateurs. Je veux dire, si la démocratisation de cette technologie-là et si les prix continuent encore de baisser, est-ce que tu penses que dans un avenir proche, le SSD va remplacer tout simplement le HDD ?
Alors, je dirais oui et non. Non, parce que je pense que le HDD, parce que c'est pas cher, restera en usage pour le stockage de masse. C'est-à-dire que pour ta sauvegarde pérenne, tu vas utiliser le HDD. Par contre, pour le reste, effectivement, que ce soit pour ton disque de travail, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais après, je trouve que c'est quand même super fluctuant. Parce qu'on parlait qu'on n'arrête pas de baisser, mais on a aussi eu des hausses. Il y a eu des moments où, boum.
Oui, ça coûte. Oui, c'est la mémoire flash, les cartes mémoire, c'est envolé à un moment
donné.
Ouais,
hop, ouais. On te dit, baisse des semi-conducteurs. Ah oui, tu dis, tiens, c'est quand même bizarre. Et puis, quelques mois après, tu apprends qu'il y a un nouveau iPhone qui vient de sortir. Et c'est lui qui avait racheté l'intégralité des semi-conducteurs pour fabriquer son iPhone. Donc, augmentation des prix. Donc, effectivement, je pense qu'à terme, si le prix diminue, comme tu disais, l'augmentation des capacités, parce qu'on est encore sur des capacités qui ne permettent pas... C'est pour ça que je pense que le HDD est encore de beau reste.
Petit à petit, quand même, hein, même sur les solutions nomades, quand tu commences à avoir du 4 Tera dans le creux de la main, en nomade, c'est pas mal.
C'est ce que je te dis, c'est qu'effectivement... Ça, je crois absolument que ça va fonctionner. Là où je pense que ça fonctionnera moins, c'est quand tu vas avoir, je sais pas moi, 24 Tera, 48 Tera, parce que dans le cours de ta vie, tu vas avoir besoin de stocker de plus en plus le disque dur.
Mais sinon, tu multiplies les supports. Moi, je crois plus à la multiplication des supports d'archivage qu'à un monolithe de 24 Tera. Mais là, on touche à quelque chose finalement qu'il faudrait aborder dans une autre émission, qui est la philosophie qui est propre à chacun de l'archivage. C'est-à-dire la manière dont on le conçoit, dont on l'aborde et dont on le met en pratique. C'est-à-dire comment on organise ses dossiers. Par temporalité, par thème. Et tout ça, en fait, c'est hyper important.
Ça rejoint ce qu'on avait dit pour les cartes mémoire. Certains préfèrent utiliser des cartes de 32, d'autres préfèrent utiliser que des cartes de 128. Il y a aussi le support. Qu'est-ce que je mets dessus? Des photos, des vidéos. Tout ça change, en fait. Et la bonne pratique, c'est celle que tu maîtrises le mieux et qui, pour toi, est la meilleure.
Ah, complètement.
Et qui doit, une fois de plus, j'insiste encore là-dessus, tenir compte de l'obsolescence programmée, entre guillemets, de certaines technologies et du risque logiciel. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui ne fonctionnent qu'avec les bibliothèques Lightroom, qui sont extrêmement, extrêmement bien faites mm-hmm. en soi. Mais voilà, Lightroom, c'est un système d'abonnement. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, on est enfermé dedans. Et si un jour, pour une raison X ou Y, Adobe venait à faillir, on se retrouvait qu'avec des tas de dossiers, sous-dossiers, sous-sous-sous-dossiers, très mal organisés, dans lesquels il serait très difficile de s'y retrouver sur des énormes quantités de données.
C'est la discussion qu'on a eue avec Marie, qui utilise le catalogue. Moi, je n'utilise pas le catalogue Lightroom, bizarrement. Mais c'est vrai que ça te permet aussi à toi, Marie, de retrouver facilement. Parce que comment tu gères, par exemple, comment tu nommes tes images ?
Je ne les renomme pas, je les laisse telles quelles.
On pourrait tous se poser la question, Benjamin.
Ah, moi, le jour où je perds la mémoire, je ne suis pas bien. Parce que moi, je fonctionne vraiment par année, par mois.
Oui, pas comme ça. Ensuite,
ouais, vraiment. Donc, mais... ouais, et c'est très manuel. Et je ne passe pas par un catalogueur.
Ah, tu vois, ça nous fait un point commun.
Pas du tout, ouais. Moi, j'utilise Bridge chez Adobe, Camera
Raw. Qui est une interface, Bridge.
Oui, c'est ça, ouais.
Qui est une visionneuse.
Oui, une visionneuse, ouais.
Et derrière, il y a Darktable aussi en version gratuite, qui est pas mal aussi. Et derrière, je passe par Camera Raw, donc pour traiter les RAW, parce que je photographie que en RAW.
Et tu vas traiter les RAW que tu as choisi dans Bridge.
Absolument.
Uniquement. Et le reste, bah, tu verras plus tard.
Et le reste, je verrai plus tard, absolument. Okay. Mais quoi qu'il arrive, je les archive. En tout cas, après, je ne renomme pas les fichiers, puisque c'était la question.
Bon, voilà qui conclut cette seconde partie de cette très grande émission sur les bonnes pratiques de la sauvegarde avec SanDisk Professional. Merci Sébastien d'être venu à nos micros. Merci Marie d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Avant de passer au débrief, je reviens quelques instants un peu sur le jeu concours qu'on organise à l'occasion de la diffusion de la seconde partie de cette émission et qui va peut-être vous permettre de remporter un SanDisk Extreme Pro Portable SSD de 2 Teraoctets d'une valeur de 239€. Alors comment ça se passe ? Eh bien c'est comme d'hab, c'est sur notre compte Instagram. Pour participer, il faut suivre les comptes Instagram de Faut pas pousser les ISO, Sélection Photo et SanDisk Professional. Ensuite, il faut répondre en commentaire du post qui annonce le concours à la question suivante. Quelle est la vitesse de lecture maximale offerte sur le disque SanDisk Professional Pro G40 SSD en Thunderbolt 3 ? Vous aurez évidemment la réponse si vous avez écouté avec attention cette émission. Un tirage au sort sera organisé pour désigner le ou la lauréate qui sera contacté par DM pour recevoir son cadeau. Vous avez jusqu'au 29 mars prochain pour participer. Bonne chance à tous et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec la photographe Marie Ninin et Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo pour parler des bonnes pratiques de la sauvegarde avec SanDisk Professional. Marie, Sébastien, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, quel type d'accidents peuvent survenir avec un workflow non optimisé de travail et de sauvegarde qui risquerait de mettre en péril photo et vidéo ? Marie.
Donc, tous les problèmes informatiques, en dehors du vol, les incendies, les inondations, enfin toutes les catastrophes naturelles, et puis les erreurs humaines.
Je rajouterais même les nouvelles tendances du moment, à savoir le hacking et les virus informatiques. Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il est préférable de choisir des disques en technologie SSD pour ce qu'on appelle le travail et des technologies en disque HDD pour ce qu'on peut imaginer être l'archivage long terme?
Oui, alors en fait, le disque de travail en SSD, parce que tu vas te permettre de pouvoir mettre directement tes images, les traiter avec rapidité via ton ordinateur. Mmh. Et le HDD va te permettre de transférer tout ce que tu viens de faire sur un disque de sauvegarde qui, lui, est là pour être pérenne et ne pas forcément être utilisé, sauf si tu as eu un problème avec ton disque de travail.
Et qui a de grandes capacités par rapport au évidemment, SSD à l'heure actuelle, en tout cas.
Et beaucoup plus abordable.
Et beaucoup plus abordable, évidemment.
Au Teraoctet. Mmh. OK. Quel est le disque SSD le plus performant à l'heure actuelle proposé par SanDisk Professional ?
Je crois, de mémoire, je crois que c'est le G40 qui doit aller jusqu'à 3000 mégabytes par seconde.
À quoi peut ressembler le workflow de travail d'un photographe ou vidéaste amateur ou professionnel ?
Alors, idéal, je ne sais pas, mais par contre, je vais te dire, en fait, le mien, qui est celui que je préconise pour l'ensemble des clients qui viennent me voir, c'est ce que j'ai fait avec Marie, c'est ce que j'ai fait aussi avec Raphaël, c'est d'avoir un disque de travail en SSD, on va dire de 2 Tera, d'avoir un disque de sauvegarde qui va être un disque en HD, un disque dur, pardon, ça va être un disque dur de, en général entre 6 et 12 selon si c'est de la photo et de la vidéo, et un deuxième encore qui va être là pour sauvegarder ce premier. Le disque de travail, une fois que les RAW ont été travaillés, qui sont devenus des JPEG traités, je le formate et ça redevient un disque de travail. Donc, pour être bien clair, un disque qui va être plus ou moins nomade, puisque c'est un petit disque, que je peux amener soit avec moi dès que j'ai transféré mes données. Donc, je choisis mes images, je les mets sur ce petit disque-là, je prends ma tablette, je commence, ce que je disais tout à l'heure, à travailler mes images avec Lightroom mobile, ce qui fait qu'elles sont traitées. Après, je les récupère dans mon Lightroom puisqu'elles sont déjà sur le cloud d'Adobe. Une fois que j'ai fait ça et que mes JPEG, mes RAW sont transformés en JPEG, je les mets dans un disque dur de 6 Teraoctets. Et ce disque dur de 6 Teraoctets est redondant et se retrouve sur un autre disque. Et c'est ce disque-là, effectivement, dont on parlait tout à l'heure, qui va se déplacer et qui va aller ailleurs quand je vais partir de chez moi.
Oui, tu ne laisses pas deux disques au même endroit.
Non.
Et toi, Marie, rappelle-nous un petit peu comment tu procèdes.
Donc, je travaille directement sur un disque dur, en fait.
Ouais, toi, tu ne passes pas par l'étape disque
de
travail.
Voilà, exactement. Je travaille directement sur un disque dur et je copie sur un autre disque dur. Et donc, il me faudrait maintenant, effectivement, délocaliser un troisième. Voilà, troisième
c'est
disque sur lequel je suis en train de travailler.
Oui, mais c'est chouette. Non, mais tout ça, c'est vachement, ça illustre à quel point on est différent et on a des approches différentes par rapport au fameux flux de travail.
Hein. Et oui, donc, et puis tout ça peut s'améliorer. Il faut trouver le juste équilibre entre investissement économique, complexité, contrainte et sécurité. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes besoins ou possibilités à ce niveau-là.
Mais tu l'as vu, en fait, dans les différentes capsules que tu as fait, Stéphane n'utilise pas du tout ce système-là. Olivier est plus proche de ce que je fais, avec effectivement un disque SSD de travail sur lequel il va tout de suite bosser rapidement sur ses fichiers. Je crois que Raphaël ne fait pas ça non plus. Toi, Marie, non plus.
Non, mais en fait,
donc c'est pas idéal.
C'est pas tout à fait la même pratique. Je n'ai pas de client où je dois donner des résultats très rapides. Je peux attendre d'être rentré chez moi pour traiter mes photos. C'est complètement différent. Hein. Et j'ai pas de vidéo non plus, ou très peu, que ça compte plus, la rapidité.
Sébastien, pourquoi un système RAID apporte encore plus de sécurité à un workflow ?
Ça apporte de la sécurité parce que justement, tu vas t'assurer automatiquement que ce que tu fais sur le disque A est exactement la même chose que sur le disque B. Donc, tu assures le coup.
Et enfin, pour terminer, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la sauvegarde ? Sébastien.
En fait, moi, le rêve, ça serait qu'on augmente, que les SSD baissent, qu'on augmente leur capacité et qu'on soit uniquement SSD. En fait, je n'ai pas trop peur de la disparition des disques durs, mais le fait d'être mécanique peut être une source de panne. Tu en parlais, Benjamin, au tout début de l'émission. Ça peut être un risque. Mais on a vu aussi au cours de la discussion que le SSD, c'est aussi un risque. Donc en fait, il n'y a pas l'avenir. Moi, j'ai effectivement le SSD parce que je trouve ça plus rapide. C'est de la mémoire flash. Et si c'est bien entretenu, il n'y a pas de souci. Mais c'est une question difficile, en fait.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Marie-Sébastien, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ?
Oui, parfaitement.
Oui.
Première question pour toi, Sébastien, qui nous vient de P. Bernardon. Avec les solutions sur le cloud, est-ce qu'il est encore nécessaire d'utiliser des disques externes ?
Alors, je dirais oui et non. Oui, pour la sécurité physique de tes données, c'est-à-dire que tu ne donnes pas tes images à un tiers, il faut conserver des disques durs externes. Par contre, si tu veux effectivement utiliser le cloud, dans ces cas-là, il faudrait être encore plus radical, c'est d'avoir deux clouds. Un cloud de travail et un cloud de sauvegarde.
C'est bien délirant, là.
Ah non, il faut garder ce principe de duplication des éléments, de ne pas les garder au même endroit. Ça vaut pour le physique comme ça vaut pour les nuages.
Hein. Exactement.
Toute l'enfumerie du cloud, c'est reporter la problématique de l'archivage 3.2.1 chez un prestataire. Quoi.
Exactement, chez un tiers dont tu ne sais pas ce qu'il va faire de tes images.
Ça, non, puis pas sûr que le cloud soit une solution d'avenir par rapport aux tous les problématiques écologiques que ça soulève.
Bah exactement.
Effleurer au cours de l'émission.
Ouais. Et puis le coût du cloud avec le coût de l'énergie qui n'arrête pas d'augmenter va faire que les prix vont également augmenter.
Bien sûr.
Deuxième question qui nous vient de Eri Gisèle. Combien de temps est-ce que l'on peut stocker une photo sur un disque SSD et sur un disque HDD ?
Alors,
question à 100 balles.
Ouais. Alors, je vais vous parler d'une norme qui s'appelle MTBF, qui s'appelle Mean Between Time Failure, que je traduirai en anglais à partir de quand je commence à flipper.
J'adore cette traduction.
Voilà. Alors, c'est un anglais approximatif, je te l'accorde, Benjamin.
Oui, mais j'aime beaucoup.
Voilà. Donc, pour un disque dur et sur un SSD, on est sur 2,5 millions d'heures.
Troisième question qui nous vient de Voodoo Child 46. Selon toi, quelle est la meilleure nomenclature pour archiver ces fichiers dans la durée et pouvoir les retrouver rapidement ?
Donc, toutes mes images s'appellent, on va prendre un exemple, 2023, l'année, suivi du mois, 2023-08, suivi du jour, 2023-08-17, underscore, l'endroit où j'ai fait la photo, je ne vais pas dire Pays-Bas, suivi du nom du client s'il y a un nom de client ou s'il y a le nom de quelqu'un qui m'accompagnait. C'est tout. Quand je fais une recherche dans Bridge, si je tape 2023, il me sort toutes les images de 2023. Si je fais 2023-08, toutes les images du mois d'août. Si je mets 2023-08-17, toutes les images 2017. Et si je rajoute, par exemple, là, on a fait un atelier récemment, je mets atelier compère, Bastille, avec la date, je reçois toutes les images de l'atelier fait avec les compères à Bastille.
Ah, moi, je suis admiratif de ça. C'est quelque chose. Je suis absolument incapable de faire ça.
Mais j'aimerais. Ça te prend.
Tu fais comment,
que dalle.
Arthur ?
Oui, mais... Moi, c'est très simple.
Attention,
mes
là,
photos
est-ce que vous
sont
êtes prêts
stockées en permanence sur la carte mémoire qui est dans mon appareil photo et ne sortent jamais ni de la carte ni de l'appareil photo. Comme ça, encore plus simple. Quand elle sera pleine, j'imprime tout, je formate et on recommence. Mais tout le monde n'est pas obligé de faire comme moi. Troisième question pour toi, Sébastien, qui nous vient de Charles Cabi. Quelle est la meilleure solution pour stocker 150 Tera de rush d'archives clients ?
Alors, 150 Tera de rush, c'est déjà les beaux rushs. Hein. Donc là, on est plus sur une prod cinéma. Il n'y a que le Shuttle 8 à 160 Tera, mais ça veut dire qu'il t'en faut deux. Parce que si tu veux faire une sauvegarde de tes 160 Tera, il te faut un deuxième, ce qui te fait un budget à peu près de 9000 euros. C'est une grosse prod. 160 Tera, enfin 150 Tera, c'est vraiment une grosse production.
Oh, si on tourne en 8K, 4K, 10 bits, ça peut aller très, très vite. Ok, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Valable pour Sébastien et Marie. À choisir un HDD de 32 Tera ou 8 SSD de 4 Tera pour archiver vos photos dans la durée.
Sans parler de prix.
Est-ce que j'ai parlé du prix ?
Non, je sais. On parle jamais d'argent.
Moi, j'en prendrais qu'un parce que c'est plus simple.
Moi, tu ne sortiras pas de sa boîte.
Je sais que ça, il risquerait de l'offrir. Non, je prendrais le SSD, moi.
Tu prends les
ouais.
8 SSD ?
Ouais.
Pour la redondance des données,
ouais,
pour...
Ben, c'est un peu ce qu'on disait ensemble.
Ouais. Moi, je prends les 8 et je relance de...
je relance de 1.
J'en prends 16, en fait. Puis il faut tout dupliquer.
Ouais. Allez, on termine le quiz là-dessus. Merci. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Marie-Sébastien, c'était un plaisir de vous avoir avec nous à nos micros. Vos actualités respectives en ce moment, Sébastien, pour commencer.
Toujours avec les compères, on a organisé samedi dernier un atelier qui s'est super bien passé. On a fait ça sur le toit de l'Opéra Bastille.
Donc, vous aimez bien les toits, j'ai remarqué. Alors,
on est très toit parce qu'on aime bien Paris et il n'y a rien de plus beau que Paris vu
qu'un toit,
franchement. Et donc, on était 16 et on a partagé nos connaissances avec Baptiste et Frédéric. Et puis, tout le monde a été content. Et puis, après, dans la boutique, on va continuer à faire des offres avec les différents partenaires avec qui on travaille.
Est-ce que tu as des X100 ?
Est-ce que tu as précommandé ton X100 chez Sélection Photo Vidéo, le magasin qui vous...
Alors, on ne parle pas du X100S ou du X100T, hein, on parle du X106.
Mais en fait, je pense que maintenant, il faut qu'on l'appelle X100 tout court. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Non, en fait, ça va être un produit qui va être livré par Simony, par Fuji. Et puis, on livrera tout le monde. Maintenant, c'est combien de temps entre le moment où tu passes ta commande ? En fait, la question, c'est que, évidemment... on va livrer les produits. Mais les gens te posent la question, oui, mais quand ?
Pour quelle année ?
Voilà, et ça, très sincèrement, il n'y a que Fuji et qui pourrait répondre. Et je ne suis même pas sûr que Fuji France puisse répondre.
Ouais, c'est pas sûr non plus, ça. Ouais. Ok, en tout cas, merci Sébastien. C'était un plaisir de t'avoir de nouveau avec nous pour parler sauvegarde.
Merci à vous.
Merci Marie d'être venue à nos micros pour nous partager ton expérience et ton workflow sur cette thématique de la sauvegarde. Voilà pour cette émission spéciale Sandisk Professionnel autour des bonnes pratiques de la sauvegarde partie 2. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour la première émission au coin du feu de la saison 8 du podcast avec le photographe Evan Lebourdet. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.